L'émission qui va suivre vous est proposée en partenariat avec la librairie La Procure.
Culture Club, une émission produite par Radio Notre-Dame et diffusée également par RCF. Christophe Maury.
Bonjour Pascal Bruckner.
Bonjour Christophe.
Vous êtes venu nous voir ici il y a 2 ans déjà. Romancier, philosophe, auteur d'une 30aine d'ouvrages, primé par le prix Médicis, le prix Montaigne, le prix Renaudot. J'ai envie de dire que vous faites mouche à tous les coups. Élu à l'Académie Goncourt en 2020, vous poursuivez une carrière de penseur, de philosophe, de ce qu'on appelle un écrivain, une vraie pensée. On peut vous entendre sur Radio Classique, toujours dans la matinale.
Non, c'est fini. Non, ils m'ont remercié.
Eh ben,
Ils ont eu tort, je pense.
Mais ça vous donne plus de temps pour écrire. Vous le savez, voilà. Je vous lis livre après livre et votre parole compte parce qu'elle est celle de l'honnête homme du XVIIe siècle, ce grand esprit français qui s'est regardé dans les horreurs pour y discerner comment en sortir grandi. Et c'est plus qu'une qualité. Alors votre essai impose, il n'est pas long à lire, mais il impose un temps de lecture parce que vos phrases sont si resserrées qu'elles passent pour des aphorismes, des mots définitifs, des coups de poing parfois. Vous êtes en colère contre ce monde ?
Ah non, je ne suis pas en colère, non, parce que je suis bien dans mon époque, contrairement à d'autres, mais je suis obligé aussi d'en souligner les travers, les défauts.
Mais avec quelle autorité ?
Oui, sans doute, oui, mais moi je pense qu'un écrivain, c'est une vigie. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui avertit des dangers et qui voit les menaces courir dans la vie quotidienne. Mais ça ne veut pas dire qu'on n'aime pas l'époque. Hein.
Non, mais vous vous resserrez, je trouve. Vous savez, ça m'a fait penser, les gens qui écrivent au bic, ou alors qui écrivent sur le clavier directement, et puis il y a les anciens qui écrivaient directement sur le marbre, donc ils gravaient dans le marbre, donc il ne fallait pas mettre d'adverbe, il ne fallait pas mettre un mot de trop, mais c'était toujours le mot juste.
Oui.
Et c'est exactement ce que j'ai ressenti à la lecture de votre livre.
Ah ben, ça me fait plaisir, mais vous savez, au départ, le manuscrit était très gros. Il faisait, je sais pas, 100 000 signes de plus, et l'éditeur m'a dit, oulala, là on va vers le désastre. Tu coupes, c'est trop long. Et donc, effectivement, j'ai supprimé même un chapitre entier qui n'était pas pertinent. Et on gagne toujours à resserrer pour le lecteur et même pour le sens du livre.
Alors, revenons justement au sens du livre. Je souffre, donc je suis portrait de la victime en héros. Naturellement, il s'agit de cette victimisation permanente de tout. Vous écrivez, les groupes d'affligés se multiplient de façon exponentielle. Nous sommes arrivés à l'ère de la victimisation. On était à l'ère du soupçon avec Sarraute. Là, on est à l'ère de la victimisation. On est tous victimes de quelque chose et de quelqu'un. Partout fleurit, écrivez-vous, partout fleurit l'imposture victimaire. Et je vous cite, « Nous sommes entrés dans la République du fait divers, sous le double signe de l'indignation et de l'émotion. L'information se résume pour les médias à recenser les morts et les assassinés. La commisération est partie intégrante du civisme et de la vie en société. » C'est une catastrophe, c'est un constat. Comment on en est arrivé là ?
Alors comment on est arrivé là ? Ben, je pense que c'est une évolution qui existe depuis 70 ans, à peu près depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et pour moi, un des faits majeurs, c'est quand la figure du déporté s'est substituée à celle du résistant. C'est-à-dire, dans les années 80, même si on a toujours su qu'il y avait eu des camps de la mort, la publicité autour de cette figure du concentrationnaire, de l'homme en pyjama rayé, émacié, squelettique, qu'on a découvert à Auschwitz ou à Buchenwald, a tellement frappé les esprits que c'est devenu la figure centrale à laquelle toute personne qui souffre aujourd'hui voudrait ressembler. On voulait imiter la passion du Christ, maintenant on imite l'allure du déporté du concentrationnaire.
Vous écrivez, ce n'est plus à l'oubli qu'il faut arracher Auschwitz, mais à son kidnapping par les forbans de la mémoire.
Oui, parce que tout le monde se revendique du génocide. Regardez ce qui se passe à Gaza. Bon, c'est horrible, personne n'a de doute là-dessus. Est-ce pour autant un génocide ? Est-ce que ce mot est exact, je ne crois pas. On ne peut pas mettre le mot génocide chaque fois qu'il y a un massacre ou un crime de guerre. Ce sont des choses qui, malheureusement pour les victimes qui, elles, en souffrent, doivent être hiérarchisées. D'ailleurs, la justice le fait. Et donc, mais il y a l'habit du déporté est devenu un habit de lumière.
Alors, dans les années 80, on est passé du génocide à la Shoah avec Claude Lanzmann.
Oui, exactement.
Et là, ça a donné, enfin, vous le dites dans votre livre, et là, ça a donné encore un coup d'accélérateur. C'est-à-dire qu'il fallait vraiment se démarquer. Il y avait la victimissime Et puis en dessous, il y a les victimes, et puis il y a les petits-fils de victimes, et puis il y a les arrière-petits-fils de victimes, mais c'est déjà un titre, c'est déjà une forme d'héroïsme dans notre société.
Oui, alors là, il y a deux phénomènes dans votre question. Oui. C'est qu'il y a transmission héréditaire du statut de bourreau et du statut de victime. On parle de descendants d'esclaves dans les Antilles, et un livre a très bien marqué comment ce concept avait été forgé, construit. Et il y a aussi descendants de déportés. Donc déjà, on peut contester cette... Alors bien sûr, il y a le souvenir du traumatisme. Dans tous les peuples qui ont subi des atrocités, les traumatismes du passé existent, mais c'est quand même problématique.
Sur la victimisation de l'esclavage, vous avez des pages de grande sévérité
comme ça. Mais surtout, personne ne veut être une victime au rabais. Tout le monde veut être une victime de plein droit, et donc on voit aujourd'hui que beaucoup de gens, hommes ou femmes, voudraient en quelque sorte accéder à une sorte de dignité supérieure, parce que s'il n'est pas égal à la Shoah, on n'est rien. Et donc on voit bien que depuis 40-50 ans, toutes les guerres, toutes les minorités, toutes les atrocités sont immédiatement rehaussées au niveau supérieur pour justement arriver à attirer la lumière publique.
Alors, l'une de ces caricatures de la victimisation, et alors, comme je vous suis, je suis obligé de vous citer, oui. C'est Annie Ernaux. C'est une vraie prix Nobel de nos jours, Annie Ernaux, qui profite de sa distinction pour se poser en victime exemplaire, rappelant qu'elle écrit pour venger sa race et son sexe, c'est-à-dire ses origines ouvrières, réparer l'injustice sociale de sa naissance et sa condition de femme. Elle souligne que rien ne peut effacer les brimades subies depuis l'enfance. Concédant que son prix est une victoire collective pour toutes celles qui souffrent, elle se voit comme une transfuge de classe, une immigrée de l'intérieur qui a rompu avec le bien écrire des dominants. L'étonnant dans son cas, c'est que le succès, loin d'éteindre la colère, la ravive. La rage lui tient lieu de boussole, les honneurs plus les larmes, la fortune plus la rancœur. Le privilège absolu, le Nobel, les ventes faramineuses par millions, la transfigurent en serve. Admirons cet art étonnant de transformer des privilèges en malédictions.
Oui, alors il faut dire d'abord que moi j'aime beaucoup Annie Ernaux, j'ai beaucoup lu, hein, j'ai lu presque tous ses livres, mais son attitude politique, ses engagements systématiquement anti-israéliens, alors je ne veux pas faire de psychanalyse sauvage, mais quand même je trouve qu'il y a d'autres occasions de s'indigner sur cette terre, et puis sa rancœur, et c'est le Nobel du ressentiment. Quand elle dit venger sa race, alors elle dit qu'elle fait allusion à Rimbaud. Parce que c'est vrai, au 19e siècle, le mot race voulait dire condition sociale. Mais entre-temps, il y a eu quand même la Seconde Guerre mondiale. Il y a eu un certain Philippe Henriot, collaborateur connu, qui accusait Pierre Dac, alias André Isaac, de vouloir venger sa race en ayant incité à la déclaration de guerre contre l'Allemagne. Donc le mot a quand même changé de sens. Et j'aurais aimé que Mme Ernaux en tienne compte. Mais c'est vrai que maintenant, ses engagements politiques proches de la France insoumise deviennent un peu délirants. Il y a quelques jours, elle a attaqué les Blancs doivent perdre leurs privilèges. Enfin bon, elle tombe dans tous les pièges de l'ultra-gauche qui partage beaucoup de choses en commun avec l'ultra-droite. Mais peu importe.
Alors,
mais c'est un bon exemple, effectivement, de cette victimisation des puissants, des dominants. Elle est multimillionnaire aujourd'hui.
Ouais.
Mais elle continue à attiser sa rage.
Alors, revenons un peu sur cette idée de la souffrance et de la... Nous sommes en pleine semaine sainte.
c'était les rameaux dimanche.
Vous écrivez « Le christianisme inverse les hiérarchies et donne la prééminence aux vaincus sur les brutes. Le langage du vainqueur consiste à dire « J'ai raison parce que je suis le plus fort ». Le langage de la victime, à l'inverse, énonce « Ma faiblesse est mon arme et mon droit ». Il y a en elle une transcendance et presque une sainteté. Sa blessure et la mienne sont dénuements intimes de lui venir en aide. Et peut-être que, partant de là, ça a dérapé à un moment donné pour donner le culte de la victime, justement.
Voilà, donc le grand message de Jésus, c'est l'esclave crucifié qui se décrète le fils de Dieu, ce qui avait horrifié les Romains, parce que pour eux, un Dieu ne pouvait être que majestueux, impérial, immense
et dans
la splendeur. Et là, tout d'un coup, cet homme qui se déclare proche des malades, des faibles, des fragiles, les horrifie et les stupéfait. Mais là, donc c'est la révolution christique et c'est une révolution de civilisation à laquelle nous souscrivons tous aujourd'hui, que nous soyons croyants ou non. Mais sur le statut de la victime, c'est greffé la victimisation, qui est un mal qui a toujours été présent au cours de l'histoire, mais qui s'est accéléré au XXe siècle, sur, d'abord peut-être sur le relatif affaiblissement de la foi dans nos pays occidentaux, et en France, qui était la fille aînée de l'Église, mais où l'assistance à la messe, les vocations tendent à diminuer, mais la victimisation devient justement cette revendication par toutes les classes de la société, par toutes les personnalités, par toutes les minorités, mais aussi, et ça c'est plus intéressant, sur le plan mondial par les États, de ce statut de paria, tout le monde veut être le damné de la terre d'un autre, et donc à partir de là exercer un chantage, voire déclarer des guerres, c'est le cas de Poutine, qui prétend combattre le nazisme des Ukrainiens, et même les djihadistes, prétendent que les musulmans sont opprimés et qu'il faut tuer...
Alors ça, c'est la question politique, mais il y a aussi une question de pognon. Vous écrivez, la souffrance est un mal, elle est aussi une rente que l'on peut faire fructifier. Se dire victime, c'est se doter du double pouvoir d'incrimination et de réclamation. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a tellement de... Dans un état de droit, il y a tellement de justification de la victime que derrière, il y a du pognon. C'est-à-dire qu'il y a des assurances qui tombent, il y a une considération, et puis tout ça est quantifié. Donc on a intérêt à se dire victime pour pouvoir en gagner plus.
Oui, bien sûr. Alors, c'est une très bonne chose, les assurances. Hein.
Oui.
Donc, c'est heureusement que nous sommes assurés, parce que sinon, nous croulerions sous les dettes. Chaque fois qu'on a un accident, ou un dégât des eaux, ou un problème médical. Mais c'est aux États-Unis qu'on voit que ce développement de la victimisation financière est extrêmement poussée. Donc il y a plusieurs cas célèbres dans l'histoire récente, notamment c'est une petite fille qui s'est brûlée avec des nuggets qu'elle avait achetés dans un McDo, et les parents ont réclamé 12 millions de dollars à l'avocat. Finalement, ils ont eu 800 000. Mais 800 000 dollars pour des nuggets qui ont brûlé la jambe d'une petite fille, c'est quand même pas mal. Et alors évidemment, on ne peut pas répéter ça trop systématiquement parce que les grandes entreprises commencent à se protéger. Mais aux États-Unis, vous avez très souvent des passagers dans les avions qui, à la moindre turbulence, renversent leur café sur leur jambe, ou sur leur ventre. Et là, hop, ils attaquent la compagnie. Et ça a déjà très bien marché. Et donc tout est une occasion, effectivement, de soutirer de l'argent à une grosse entreprise.
Donc, soutirer de l'argent pour le café sur le pantalon dans l'avion, mais soutirer de l'argent pour la colonisation, parce qu'on voit dans les îles, dans les Antilles, on a un certain nombre de mouvements qui demandent réparation par rapport à l'esclavage passé. Vous écrivez très, très justement, on ne peut faire payer aux contemporains les crimes de leurs aïeux. Mais se pose toujours la question de la colonisation.
Oui, alors ça, de toute façon, c'est le...
Autre victimisation.
C'est le péché dont nous ne sortirons jamais en France, alors qu'il devrait appartenir aux historiens. C'est-à-dire
bien
que
sûr.
Maintenant, la colonisation est passée, mais c'est une mémoire blessée que l'on réactive en permanence. Mais en général, derrière cette réactivation, ce sont des récriminations très précises. C'est un malaise, c'est un statut que l'on veut obtenir dans les Antilles, à La Réunion ou en Guyane. Et d'ailleurs, il faut là faire preuve de beaucoup de diplomatie, de délicatesse pour négocier sur ces sujets-là. Mais c'est vrai, on réclame des milliards, c'est la même chose aux États-Unis. Mais si on entrait dans cette logique-là, alors les Grecs, les Serbes, les Bosniaques et les Croates seraient fondés à demander des milliards à la Turquie qui les a colonisés pendant 7 siècles. Pareillement les Syriens, les Irakiens, les Égyptiens. Et si on faisait...
Allons-y, tout le monde.
Ah oui, tout le monde.
Et puis, je n'ai pas demandé à naître non plus.
Oui, et on pourrait demander aux Italiens de nous rembourser pour l'occupation romaine sous Vercingétorix. Parce que comme il n'y a plus de limite temporelle...
Il n'y a plus de limite.
Et puis, je trouve que les réclamations pour l'esclavage qui sont légitimes, effectivement, dans certains points, tendent à oublier qu'aujourd'hui, selon la Fédération abolitionniste, il y a entre 30 et 50 millions d'esclaves dans le monde, et je pense que notre souci à nous, contemporains, serait plutôt d'essayer de sauver ces gens qui vivent en état de servitude que de retourner sur les crimes du passé.
Est-ce qu'une société qui met tellement en avant la victime, est-ce qu'elle n'avance pas en regardant dans le rétroviseur au lieu de s'ouvrir vers l'avenir ?
Oui, bien sûr, ben c'est notre myopie. Enfin, nous avons une sorte de nous regardons, nous tournons la tête vers l'arrière en disant mais c'est affreux ce qu'on a fait, c'est épouvantable, comment est-ce qu'on peut encore vivre, comment est-ce qu'on peut ne pas se repentir chaque matin ? Et ce qui est une manière d'ailleurs de rester toujours... l'Occident impérialiste a perdu la main, donc il a perdu ses colonies et il ne règne plus sur l'ensemble du monde, mais à travers la victimisation, l'autoflagellation, il reste encore au sommet de l'ignoble, ce qui est une manière de dire, ben, voyez, on est encore indispensable, vous pouvez nous accuser, tant que vous nous accusez, on reste les premiers prix de la barbarie universelle tout au long de l'histoire. Mais surtout, ça nous empêche, cette attitude de rétrovision, nous empêche de voir les crimes d'aujourd'hui. Et nous a laissé, par exemple, un peu myope sur le danger russe.
Là, vous avez des pages terribles. Hein.
Sur le danger djihadiste.
Et je tiens à dire d'ailleurs que votre, Pascal Bruckner, votre essai « Je souffre, donc je suis portrait de la victime en héros » chez Grasset est extrêmement actuel, parce que vous parlez même... Vous parlez de la Russie et de l'Ukraine, mais on a l'impression que ça a été écrit hier. Enfin,
Oui, alors que j'ai arrêté de l'écrire en novembre.
Bah oui, le temps de la fabrication du livre.
Oui, c'est quand même long de la correction. Mais
on a l'impression de lire Le Monde d'aujourd'hui.
C'est parce qu'en fait, les événements se déroulent selon une certaine logique, et une fois qu'on a saisi cette logique-là, tout ce qui se passe après ne fait que la confirmer. Mais le dossier russe et ukrainien, je le suis depuis 20 ans. Donc,
vous le connaissez très bien. Alors, on a parlé de la Shoah, on a parlé de la colonisation, on a parlé, d'une certaine façon, du social avec Annie Ernaux. Et là, il va quand même falloir qu'on parle des femmes.
Oui.
Et nous avons la question de MeToo. La grande réussite de MeToo, écrivez-vous, est d'avoir réécrit la grammaire amoureuse sous l'angle du délit. Toutes les étapes de la séduction, du consentement à l'acte charnel, ont été reconsidérées non pas au nom de la jouissance, mais de l'éventuelle violation de l'intégrité des personnes.
Oui, c'est ce que Irène Théry a appelé la nouvelle civilité sexuelle.
Oui.
Alors, je trouve tout à fait positif pour ma part que l'on insiste sur le consentement, sur le respect, sur le refus absolu de l'inceste, du viol, de la pédophilie, mais toutes ces valeurs sont partagées, à mon avis, par 99,99% de la société, et personne aujourd'hui ne revendique la primauté du viol ou de la pédophilie. Il y a eu, dans les années 70, à mon époque, effectivement des gens qui ont fait l'éloge de la sexualité enfantine, René Scherrer, Guy Hockenheim et d'autres, mais aujourd'hui, tout cela est absolument interdit. Alors, il est vrai que, pour le coup, MeToo penche un peu vers l'excès inverse, étant en quelque sorte à redéfinir l'amour comme une sorte de contrat entre personnes adultes et que l'on peut rompre à tout instant, une sorte de pax érotique. On sait que dans la vie quotidienne, ça ne se passe pas toujours comme ça. On peut effectivement avoir des relations contractuelles comme sur le modèle des campus américains. Vous savez, où il y a des applications sur certains campus, Yes to Sex, donc vous envoyez ça à une sorte de logiciel qui enregistre votre consentement, mais c'est un consentement renouvelable tous les jours. Vous pouvez le lendemain dire non. Mais la vie amoureuse est quand même plus complexe. Il y a des retards, il y a des attentes, il y a des malentendus. Et ça, je ne pense pas que l'on pourra les détruire complètement. Donc, il y a une part qui échappe à la transparence. Or, MeToo manifeste à travers certaines de ces... De ces héroïnes manifeste une volonté de clairvoyance absolue. Il faut que tout soit prévu d'avance, et puis parce qu'il y a un suspect principal qui est l'homme.
Oui, alors vous disiez déjà dans le Sacre des Pantoufles que le sexe fort était maintenant le sexe suspect. Oui. Vous reprenez cette expression dans votre nouveau livre,
Avec Alain Finkielkraut dans Le Nouveau Désordre Amoureux, que le pénis était entré dans l'ère du soupçon.
Absolument.
Et on ne savait pas qu'on était aussi clairvoyant à l'époque.
Et donc dans Je souffre, donc je suis, votre dernier opus, Pascal Bruckner, vous reprenez cette expression du sexe suspect et justement de cette nouvelle grammaire amoureuse qui fait qu'en effet, vous venez de dire le mot contrat. C'est-à-dire qu'on ne part plus dans une aventure à deux. Et vous dites à un moment donné que aimer, c'est pas fusionner, mais c'est se rapprocher le plus de l'autre. Et que finalement, la distance, ça s'appelle la civilisation, dites-vous, à un moment donné.
Oui, oui, oui.
Bon, donc, ayant perdu la civilisation, on est dans un contrat social, et effectivement, il y a de plus en plus de célibataires ou de gens qui vivent seuls, notamment dans les grandes villes, parce qu'elles considèrent, ces personnes, que rentrer en relation avec l'autre, c'est faire une sorte de contrat, et il faut checker toutes les bonnes attitudes, au lieu de partir dans une aventure humaine, simplement du frottement de la peau.
Oui, et une aventure qui ne donne aucune assurance sur...
heureusement.
Oui, heureusement. Aucune assurance sur son dénouement heureux. C'est Alain Badiou, vous voyez, c'est rare que je le cite, qui avait, dans un petit livre sur l'amour, paru il y a 10 ou 15 ans, qui avait dit que l'amour, c'était une aventure sans sécurité. Il a parfaitement raison. À partir, si la sécurité est posée à l'avance...
Il n'y a pas de liberté.
Il n'y a pas de liberté, et l'amour, c'est la possibilité de la souffrance. Des deux côtés. Je pioche dans l'actualité. J'ai vu que l'ancienne compagne de François Ruffin, donc le député de la France Insoumise, avait écrit un livre où elle disait, elle se plaint de lui, elle dit qu'il n'a pas pris en compte sa souffrance, qu'elle a été marginalisée, qu'au fond, elle n'a pas été prise en considération. Je comprends parfaitement, mais on a envie de dire, et alors, qui ça intéresse, à part eux, bien sûr? Mais c'est qu'aujourd'hui, on propose, on demande, on invite chacun, et surtout chacune, à insister sur ses plaies, à les étaler en public et à dire « Regardez comme ma vie avec cet homme a été un enfer ».
Vous imaginez le procès de Juliette Drouet à Victor Hugo?
Ah ben oui, et de nos mères à leur mari.
Et de nos mères à leur mari. Alors, bon... On a parlé de cette victimisation excessive, on a parlé depuis l'histoire, dans les différentes situations politiques, géopolitiques, et vous en parlez très bien dans votre livre, Pascal Bruckner. Maintenant, il faut en sortir. Et pour en sortir, alors vous avez deux voies, mais absolument formidables, la bonté et l'héroïsme. La bonté d'abord.
Alors la bonté, c'est une vertu chrétienne depuis toujours, qui a été, tous les saints ont mis en avant la bonté, Sans l'étalage de la vertu, hein. C'est justement la grande difficulté. Étaler sa vertu, c'est déjà un péché.
Les saints et souvent nos mères.
Et effectivement, cette petite bonté qui ne se monnaie pas, cette petite bonté qui se prodigue sans frontières, cette petite bonté qui est d'ailleurs mise en avant par un grand écrivain russe, Vassili Grossman, qui était juif par sa famille, mais qui dit qu'au fond, Auschwitz, comme à Stalingrad, comme ailleurs, ce qui a sauvé un certain nombre d'hommes, c'est cette espèce de bonté gratuite que les femmes, en général les femmes ou les hommes, avaient même envers les prisonniers ennemis, même envers ceux qui leur avaient fait du mal. Donc effectivement, la bonté, c'est ce geste irréfléchi que l'on peut manifester envers quelqu'un que l'on déteste, mais que l'on voit dans la détresse, dans la misère, dans la maladie, et qu'on a envie d'aider envers et contre tout.
Ce n'est pas de la condition de victime qu'il faut sortir, mais de la victimisation comme mentalité. On en vient de parler de la bonté, et puis il y a l'héroïsme. Et alors là, vous prenez des exemples de héros incroyables, comme ce militaire qui prend la place d'otage.
Oui,
mais il y a d'autres exemples que vous nous donnez qui sont tout à fait sidérants, et c'est... petits héroïsmes ou ces grands héroïsmes mais que l'on ne voit pas, finalement c'est ça qui nous fait sortir de la condition de victime.
Oui, c'est ça. Je pense qu'on a un point de bascule, hein. Vraiment. Ouais. Depuis 2013-2015, on a un point de bascule, le monde redevient dangereux. Nous voyons bien que l'état de victime ne suffit pas à construire une société. Si la France est peuplée de 68 millions de victimes, plus personne ne pourra s'entendre, se parler, et toutes les victimes s'entretueront les unes les autres. Par conséquent, il faut trouver autre chose. Et effectivement, on voit que dans la vie quotidienne, des hommes et des femmes ordinaires se dévouent pour sauver un enfant qui se noie, des personnes âgées prises dans un immeuble en flammes. Et ces petits gestes sont effectivement ce qui permet de renouer le lien social et au fond de nous hausser au-dessus de nous-mêmes. Parce que la victime a comme principal défaut, selon moi, de nous recroqueviller sur nos petits malheurs.
Et de nous attirer vers le bas, comme les grands dépressifs.
Voilà, donc chacun chouine dans son coin,
ouais.
Et essaye d'avoir, si possible, un haut-parleur pour en faire profiter les autres. L'héroïsme, au contraire, eh bien, on est prêt à sacrifier sa vie et à dire « ma vie ne vaut rien ». Face à la mort possible de cette personne que je ne connais pas. Et donc, je risque le tout pour le tout. Et ça, c'est un geste admirable. C'est un geste qui a été célébré par toutes les grandes religions, mais aussi par un certain nombre de philosophies, mais que nous avons oublié Et il faut rappeler quand même cette plaque hallucinante que la mairie de Paris a fait poser sur les murs pour Arnaud Beltrame, vous en parliez à l'instant. Arnaud Beltrame, victime de son héroïsme.
Mais victime là, de son héroïsme.
On devient fou, victime de son héroïsme, parce que, au contraire, on se souviendra de lui comme un homme qui a été haussé presque au niveau de la sainteté grâce à ce geste délibéré et mûrement réfléchi.
Et vous écrivez « Le héros comme le saint » transfigure leurs actes en exploits et éveille le meilleur en chacun de nous.
Exactement.
C'est ça qui est le plus important.
C'est ce qu'il faut faire dans la vie.
Merci Pascal Bruckner. Je rappelle votre essai « Je souffre donc, je suis » publié chez Grasset. Des éléments de réflexion qui méritent d'être très largement partagés, vous l'avez compris. Merci Jean-Paul Lérine pour la réalisation, Philippe Malpeuch et François Dieudonné pour la réussite technique de notre rendez-vous. Demain, c'est mercredi, je vous emmènerai au cinéma avec nos trois chroniqueurs de choc. D'ici, portez-vous bien et pardonnons-nous les uns les autres. C'est ça qui est important, je vous embrasse.